l'écoute de Radio France Internationale. Il est 2h à Paris, minuit en temps universel.
Mathis Limano.
Au sommaire de cette édition, cette onde de choc au Moyen-Orient et dans le monde, la mort d'Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, dans une frappe israélienne vendredi. Les réactions se sont multipliées. L'Iran demande en urgence une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Au Liban, dorénavant, on craint toujours une invasion terrestre d'Israël. À la une également, la journée mondiale du droit à l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG. C'était ce samedi. La France, premier pays à l'avoir inscrit dans sa constitution, n'est pas encore parfaite, vous l'entendrez. Et puis du sport, pour refermer votre journal, avec la Ligue 1 de football, Monaco a battu Montpellier sur le fil 2-1. Bienvenue. L'information de ce samedi, c'est évidemment la mort d'Hassan Nasrallah, chef du Hezbollah. D'abord annoncée par l'armée israélienne dans la matinée, elle a été confirmée par le Hezbollah plus tard dans la journée. Son chef a bien été tué dans une série de bombardements sur Beyrouth vendredi soir, a expliqué le mouvement. Un tapis de bombes s'était abattu dans la banlieue sud de la capitale libanaise où se trouve le fief du Hezbollah. Les réactions se multiplient après l'annonce de la mort d'Hassan Nasrallah, celle d'Israël d'abord. Benjamin Netanyahu a affirmé qu'Israël a réglé ses comptes avec le Hezbollah et se trouve à un tournant historique après l'élimination de son chef. Sa mort va faire avancer le retour des otages à Gaza, a rajouté le premier ministre israélien. Réaction aussi des États-Unis. Joe Biden a qualifié l'assassinat d'Hassan Nasrallah de mesure de justice pour ses nombreuses victimes. Le président américain qui a toutefois appelé à nouveau à un cessez-le-feu. Dans la région, le chef des rebelles houthis au Yémen affirme que la mort de Hassan Nasrallah ne sera pas vaine. Ils ont annoncé dans la soirée avoir tiré un missile sur l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv. Côté iranien, on considère que l'assassinat de Nasrallah entraînera la destruction d'Israël. L'Iran qui demande à l'instant une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Quoi qu'il en soit, cette confirmation de la mort d'Hassan Nasrallah n'a pas empêché l'armée israélienne de mener de nouvelles frappes sur le Liban ce samedi. Avec ce bilan, 33 morts et 195 blessés. Ces bombardements ont provoqué de nouvelles scènes de panique et de sidération dans les rues de la capitale libanaise. Les Libanais qui craignent à présent le scénario d'une intervention terrestre de l'armée israélienne dans le sud du pays. Je vous propose d'écouter l'analyse du journaliste Gabriel Blondel du quotidien L'Orient le Jour, basé à Beyrouth.
C'est forcément un scénario qu'on est obligé de prendre en compte, quand bien même on sait que les dernières campagnes menées par l'armée israélienne au Liban Sud ont été très lourdes pour ses soldats. On voit quand même beaucoup de similitudes, pardonnez-moi, avec ce qui s'est passé en 2006. Donc on se dit que cette campagne de bombardement intense pourrait précéder donc une nouvelle invasion du Liban Sud pour créer une fameuse zone tampon, comme en parle l'état-major israélien. Forcément, une telle configuration redonnerait aussi au Hezbollah les capacités de pouvoir agir donc sur un terrain qu'il connaît très bien, car on voit pour l'instant son incapacité à répondre à tous les coups qu'il reçoit depuis donc 2 semaines, depuis l'attaque des Beepers. On voit donc que ces frappes sur le territoire israélien n'ont quasiment aucun impact. On voit mal comment le Hezbollah pourrait ne pas réagir dans ce contexte-là, malgré tous les coups, encore une fois, qu'il a reçus depuis ces 2 dernières semaines.
Le journaliste Gabriel Blondel du quotidien L'Orient le Jour, joint par Charlotte de Rouen. Et en marge de cette actualité, ce coup dur pour l'économie israélienne, pour la première fois, l'agence de notation Moody's a abaissé de 2 crans la note de l'État hébreu. Raison invoquée, le risque géopolitique trop grand provoqué par la guerre à Gaza et l'escalade des violences au Liban. Alexis Bédu.
L'abaissement de la note d'Israël était attendu, mais pas à ce point. 2 crans de moins, assorti d'une perspective négative, ce qui signifie que Moody's pourrait très prochainement décider de baisser encore un peu plus cette note. Selon l'agence, le risque géopolitique pourrait avoir des conséquences négatives importantes pour la solvabilité d'Israël à court et long terme. Moody's fait directement le lien entre l'éloignement des chances d'un cessez-le-feu et cette dégradation de la note. Elle critique sévèrement le gouvernement israélien, je cite, « pas assez efficace pour prévenir les dommages aux indices de crédit du pays. Retard dans les mesures d'économie, faible croissance et dépenses importantes, l'agence s'attend à un déficit budgétaire d'environ 6% l'année prochaine, au-delà de ce qui avait été annoncé par le ministre des Finances. Conséquence, l'État d'Israël, qui paie déjà des taux d'intérêt beaucoup plus élevés qu'il ne le faisait il y a quelques mois, devra souscrire des prêts encore plus coûteux. Le comptable en chef du ministère des Finances, Yali Rothenberg, dénonce une décision excessive offensive est injustifiée, il assure qu'Israël sera en mesure, je cite, de gérer avec succès les conséquences économiques de la guerre.
Les précisions d'Alexis Bédu du service économie de RFI. L'actualité du monde nous emmène désormais en République démocratique du Congo, dans la province de Tchopo, au nord-est du pays, où l'UNESCO a lancé la deuxième phase du projet Yangambi. L'objectif, gérer l'impact des populations locales et garantir leur subsistance grâce à l'économie verte, et ce, en préservant les 230 000 hectares de forêt équatoriale. Yangambi est la toute première réserve à biosphère, c'est un système écologique global créé par l'UNESCO en Afrique en 1976. Joseph Kaongo.
Trois piliers constituent la deuxième phase du projet Yangambi, le renforcement de la gouvernance au sein des institutions partenaires, la recherche scientifique et la protection de la biodiversité. Pour l'heure, le représentant de l'UNESCO en RDC évoque le succès de la première phase, son coût 1 900 000 euros en 18 mois, Isaias Barreto d'Arosa.
Nous avons, au niveau de la première phase, promis la création de 6 ASEC, l'Association communautaire d'épargne et crédit, et nous avons aussi renouvelé le bâtiment du Centre de surveillance de la biodiversité de l'Université de Kisangani, et nous avons bien sûr fait l'entretien de la Toura Flou, le volet piloté par l'Université de Gand, et bien sûr, il y a toute la recherche scientifique qui a été conduite.
Plus de 220 000 personnes vivent dans la réserve de Yangambi et dépendent de l'exploitation de la forêt. Pour cette deuxième phase, l'UNESCO mise encore sur des actions concrètes pour préserver les lieux.
On aura environ 10 000 bénéficiaires de ces actions sur le terrain. C'est dans ce cadre que nous allons continuer le travail de sensibilisation de la population locale. Nous allons aussi continuer à travailler pour créer d'autres ASEC. Nous comptons avoir au moins 10 ASEC, associations communautaires d'épargne et crédit. Il y a aussi des projets concrets pour l'aménagement de l'eau, par exemple, et la formation, etc.
Financée à hauteur de 4 millions d'euros par la Belgique, elle peut désormais compter sur un nouveau partenaire, le Musée royal d'Afrique centrale. La deuxième phase du projet Yangambi devrait prendre 3 ans. Joseph Kaongo, Kisangani. RFI.
Ce samedi 28 septembre marquait la journée mondiale du droit à l'interruption volontaire de grossesse. Journée nécessaire puisque 40% des femmes à travers le monde vivent dans un pays qui restreint, voire interdit, leur droit à l'avortement. La France, au contraire, est le premier pays à l'avoir inscrit dans la Constitution. Pourtant, plusieurs manifestations ont eu lieu dans des grandes villes aujourd'hui pour défendre ce droit vital de choisir, comme on pouvait le lire sur certaines pancartes. Sarah Durocher, la présidente du planning familial.
Les principaux problèmes, c'est l'information. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'éducation à la sexualité, qu'on a des gros mouvements anti-choix, anti-droits qui attaquent aussi les antennes du planning familial et qui font parfois des campagnes. Et donc, du coup, il y a un vrai problème sur l'information. Nous, on voudrait une campagne nationale sur l'avortement, vraiment pour informer les personnes et pour lutter contre la désinformation. Ça fait 10 ans qu'il n'y a pas eu de campagne ni sur l'avortement ni sur la contraception. Donc ça serait bien de faire taire certains mouvements anti-choix qui sont en train de remonter. La deuxième chose, c'est qu'il y a des fermetures de services de proximité qui font que sur certains territoires, les femmes ne peuvent pas avorter, n'ont pas le choix de la méthode et parfois sont obligées de se déplacer dans un autre département. On a besoin de réouvrir des services d'IVG dans les hôpitaux qui ferment et qui ferment et qui ferment. Et puis, il y a tout le problème autour de la culpabilisation des femmes, où on a encore des progrès à faire sur le fait qu'aujourd'hui, une femme ne peut pas dire publiquement qu'elle a avorté et qu'il y a quelque chose de culturel à changer autour de ça.
Sarah Durocher, présidente du planning familial, elle était interrogée par Valérie Cohen. Du foot maintenant, avec la suite de la 6e journée de Ligue 1. Monaco, qui fêtait les 100 ans de son club, l'a emporté face à Montpellier 2-1 sur le fil à la dernière minute. Le but de Lamine Camara a permis au Monégasque d'arracher la victoire et il s'en réjouit.
Ah ouais, je suis content, mais on va dire que toute l'équipe était meilleure. On a fait un bon match. Et aussi, on a trouvé une bonne équipe en face de nous. Voilà, on savait que remporter ce match, c'est important pour nous, pour la suite du championnat. Et voilà, aujourd'hui, on l'a fait, on l'a remporté. Et je suis content d'avoir marqué et d'avoir aidé l'équipe. Forcément, c'est spécial pour moi d'avoir marqué ce but victorieux devant toutes ces monnaies, et comme vous l'avez dit, devant ces légendes. Et voilà, je suis content, je suis fier. Maintenant, on va se concentrer sur les autres matchs et espérons qu'on va gagner.
Le milieu de terrain monégasque Lamine Camara avec nos confrères de DAZN. Et un peu plus tôt dans l'après-midi ce samedi, Lens et Nice se sont quittés sur un match nul 0-0. Lille s'est imposé au Havre 3-0. Et puis en MMA, les arts martiaux mixtes. Un combat était très attendu ce samedi soir à la Bercy Arena de Paris. Benoît Saint-Denis contre le Brésilien Renato Moicano. Le Français battu sur décision du médecin à l'issue du 2 deuxième round. RFI, presque 2h10 à Paris, minuit 10 en temps universel. L'information revient dans 50 minutes.